Salut à tous et à toutes et bienvenue à Point de vue. Aujourd'hui, élection fédérale canadienne. La Fédération culturelle canadienne-française de Toronto dépose sa liste de souhaits.
Donc, on tenait à ce que nos demandes soient entendues par les chefs et les partis politiques qui aspirent à former le prochain gouvernement.
Courson à chefferie 2026 du Parti libéral du Québec, l'ancien chef du Conseil du patronat ajoute son nom à la liste. Il est le cinquième.
J'avais continué de prôner cette capacité que nous avons entre les Allochtones et les Autochtones ou les Premières Nations de prôner cette relation de collaboration parce que c'est une richesse collective et qui, pour moi, est une grande valeur fondamentale.
Des centaines de milliers d'Haïtiens vivant aux États-Unis risquent l'expulsion. Au Manitoba comme au Québec, on s'inquiète d'en subir les contre-coups.
J'étais désespéré. Il fallait voir et être témoin du niveau d'inquiétude que les gens ont de l'autre côté. Donc ça fait mal lorsqu'on y pense vraiment.
Le comité franco-queer de l'Ouest lance un projet qui vise à former les jeunes LGBTQ+, francophones, au rôle de gouvernance.
C'est vraiment de l'aide à l'employabilité aussi.
Et au défi, Joan se paye ta tête. 7 personnes se rasent le coco au profit de Cancer Fermont.
Ça me fait chaud au cœur parce que, tu sais, la population fermontoise a le cœur sur la main et puis ils sont super généreux.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Mesdames, Messieurs, bienvenue. Boris Chassaigne avec vous. Je vous accompagne pour la prochaine demi-heure. On ira aujourd'hui faire un tour en Alberta, au Québec et en Ontario. Premier arrêt en Ville-Reine, où la Fédération culturelle canadienne-française de Toronto prend parti et défendra dans le cadre des élections fédérales du 28 avril prochain les intérêts des francophones partout au pays. La fédération qui lance sa plateforme électorale, présentée à l'échelle nationale, cette initiative exhorte les chefs des différents partis politiques canadiens à prendre des engagements concrets pour protéger la culture des Franco-Canadiens et des Acadiens partout au Canada et à investir dans les arts. La présidente de la fédération, Nancy Juneau, tient à rappeler le rôle essentiel que joue la langue et la culture française dans la vitalité économique, la cohésion sociale et l'identité du pays. Quelles sont les attentes de la fédération envers les partis en lice et pourquoi la lancer maintenant à l'aube des élections? Nancy Juneau, présidente de la fédération, est au micro d'Annette Minka.
Ben écoutez, nous, on est convaincus que dans un contexte de grands changements économiques, géopolitiques et culturels, le secteur artistique et culturel de la francophonie a une importante contribution puis un rôle central pour l'identité culturelle et la vitalité du pays. Donc, on tenait à ce que nos demandes soient entendues par les chefs et les partis politiques qui aspirent à former le prochain gouvernement.
Et quelles sont, selon vous, les menaces les plus pressantes qui pèsent actuellement sur la culture francophone au Canada?
Je pense que j'ai pas besoin de chercher très, très loin. Là, le Statistique Canada, dans ses derniers rapports, a reconnu le déclin de la langue française partout au pays. Puis, on a aussi reconnu l'asymétrie des communautés minoritaires francophones et des communauté minoritaire anglophone au Québec. Puis, on a reconnu le secteur culturel comme étant essentiel. Dans tout ça, au niveau finalement de la diminution de la francophonie partout au pays, ben il y a une hégémonie culturelle sur les contenus en ligne, les contenus culturels artistiques en ligne, en anglais. On le sait, les géants du web pénètrent partout dans nos foyers, partout au pays. Donc, on a besoin de contrer ça pour offrir des contenus en français. On a aussi tout l'enjeu de la désinformation qui est de plus en plus rampante. Et donc, pour la question de la désinformation, on demande qu'on ait un radiodiffuseur public francophone et anglophone fort, bien structuré, bien financé, pour, d'une part, donner accès à nos communautés à du contenu en français, contrer le déclin avec ça, mais aussi pour offrir une information digne de confiance partout dans nos communautés.
Et justement, dans votre communiqué de presse, vous parliez d'un engagement ferme des partis. À quoi cela devrait-il ressembler concrètement, cet engagement ferme?
Ben, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait de l'argent investi dans la découvrabilité des contenus francophones en ligne, dans la création des contenus aussi. On veut que un gouvernement et un pays qui s'engage à propulser la culture francophone au Canada. Donc, une visibilité accrue des contenus francophones partout au pays, un diffuseur public fort, puis une éducation artistique de qualité dans nos écoles francophones en situation minoritaire. La Fédération culturelle a des initiatives très concrètes dans les écoles qui contribuent à ça. Encore faut-il qu'on puisse les maintenir. Puis l'autre question qui nous préoccupe beaucoup, c'est on souhaiterait un gouvernement qui reconnaît combien le secteur culturel et artistique contribue au, non seulement à la fibre identitaire Canada, mais aussi au développement économique de nos régions. Donc, on souhaiterait qu'ils investissent davantage, d'une part pour qu'on puisse créer de meilleurs emplois, mieux rémunérés et qu'on retienne les effectifs dans nos organismes culturels et artistiques sur le terrain, qui font un travail extraordinaire pour animer la vie de nos communautés. On veut que le travail des artistes, le travail qu'on appelle invisible, soit reconnu, puis que les artistes aient accès à un meilleur filet social avec un programme d'assurance emploi remanié pour tenir compte de la spécificité du travail des artistes. Puis, on aimerait aussi des investissements significatifs dans les grandes institutions culturelles du pays que sont l'Office national du film, Téléfilm Canada et le Conseil des arts du Canada.
Quel rôle vous jouez-vous en tant qu'organisme francophone, en tant que fédération, et quel rôle les artistes jouent pour mobiliser justement les électeurs francophones dans cette élection?
Nous, ce qu'on fait à la Fédération, c'est qu'on offre à nos organismes membres sur le terrain, partout au pays, qui, eux et elles, sont en lien avec les électrices et les électeurs, des outils, des messages clés, des moyens d'obtenir des entrevues. Donc, on essaie de les outiller pour qu'eux puissent porter dans leur communauté ces messages clés-là auprès de leurs collègues et de leurs confrères, de leurs consœurs qui vivent dans ces communautés-là.
L'organisme rappelle que l'avenir des communautés francophones dépend en grande partie de la reconnaissance et du soutien accordé à leur culture. Pour rappel, les Canadiens seront appelés aux urnes le 28 avril prochain pour élire leur prochain Premier ministre. Ici Annette Minka pour l'initiative de journalisme local à Toronto.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca. Eh bien, après les élections fédérales du 28 avril, la course à la chefferie du Parti libéral du Québec va retrouver son rythme. Une course à laquelle participe d'ailleurs un ancien ministre fédéral, Pablo Rodriguez, qu'on dit d'ailleurs être le favori dans cette course. Mais un nouveau venu vient brasser les cartes, lui, qui a déjà été député libéral provincial dans la circonscription de Robertval au Québec entre 2003 et 2007. Il s'agit de Carl Blackburn, l'ex-président et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec, dit vouloir maintenir de bonnes relations avec les Premières Nations, très présentes d'ailleurs dans cette circonscription. Blackburn dit avoir reçu beaucoup d'appui et avoir été très bien accueilli dans sa circonscription de Robertval au Lac-Saint-Jean. À Mastoyache, au Québec, notre journaliste Pierre Guil l'a rencontré.
D'abord, l'accueil a été très chaleureux. Le signal que je voulais envoyer dès le départ de mon lancement à la chefferie du Parti libéral du Québec, c'est qu'une fois que je serai chef, lors de l'élection générale en octobre 2023, bien que je serai candidat dans le comté Robertval. Alors, c'était important pour moi d'envoyer ce message très tôt et de le faire de façon très formelle. Alors, les gens étaient bien contents de cette prise de position. Et pour moi, bien, c'est ici que tout a commencé à Robertval. Et bien sûr que si j'ai le privilège de devenir chef du Parti libéral du Québec, bien, c'est ici que je représenterai les citoyens du comté Robertval.
Carl Blackburn a toujours maintenu de bonnes relations avec les Premières Nations. Devant les difficultés rencontrées avec le gouvernement du Québec dans le dossier de la négociation d'un traité, les communautés partenaires sont inquiètes quant à la conclusion de plus de 40 années de négociations.
Mes relations sont très bonnes avec les Premières Nations. D'abord, dans tout mon parcours professionnel, j'ai toujours été proche proches des élus des Premières Nations, des communautés des Premières Nations. J'ai beaucoup d'amis dans les Premières Nations. Lorsque j'étais, entre autres, à la tête du Conseil du patronat du Québec, nous avions développé l'Association des Premières Nations du Québec et du Labrador, entre autres avec Ghislain Picard et le Conseil du patronat. Nous avions développé vraiment une relation d'amitié, mais une relation de collaboration. Et pour moi, toute réconciliation doit également provenir d'une réconciliation économique. Et j'ai travaillé avec Ghislain Picard pour développer des projets, développer des partenariats. Nous avons même initié la reconnaissance d'un prix au Conseil du patronat du Québec pour les employeurs autochtones. Alors, pour moi, la réconciliation, c'est beaucoup aussi par une réconciliation économique. Et dans ce sens-là, je vais continuer de prôner cette capacité que nous avons entre les Allochtones et les Autochtones ou les Premières Nations de prôner cette relation de collaboration parce que c'est une richesse collective que nous avons et qui, pour moi, est une grande valeur fondamentale.
Les élections provinciales sont prévues pour le 5 octobre 2026 au Québec. Si Carl Blackburn est élu chef du Parti libéral, député du comté Roberval, et que le Parti libéral du Québec entre au pouvoir, il devient ainsi le premier ministre du Québec. Pierre Gill, initiative de journalisme local, Mashtowiat.
Ben oui, on est en pleine campagne électorale fédérale. Il y a, oui, une course à la chefferie du Parti libéral au Québec. Mais à Québecville, on s'est le 11 avril dernier plutôt soucié de fêter l'arrivée du printemps avec une cabane à sucre en plein centre-ville. C'est que chaque année, la cabane à sucre de l'Engrenage propose de la tire d'érable, de la soupe au pois et de la musique trad. Cette 16e édition qui se tenait sur le parvis de l'église Saint-Roch est aux yeux de Marie-Noël Bellan, directrice générale de l'Engrenage, un idéal social. On rejoint, dit-elle, autant les travailleurs, les écoles, les organismes communautaires que les gens qui occupent davantage l'espace public. Alice Zanetta à Québec.
Salut ta voisine! Tous par la main!
Ce midi, c'est la fête sur le parvis de l'église Saint-Roch. Avec différents organismes, l'Engrenage tient sa traditionnelle cabane à sucre. Au menu, musique trad, soupe au pois ou encore tire d'érable. La directrice générale de l'Engrenage, Marie-Noël Bellan.
D'offrir une fête au quartier, à tout le monde du quartier, c'est vraiment comme un idéal social dans Saint-Roch parce qu'on rejoint autant des gens qui travaillent dans différents secteurs de la ville. L'école vient avec les enfants. Les groupes en francisation, plein d'organismes communautaires, les gens qui habitent davantage l'espace public. Donc, on a tout le monde ensemble dans un beau moment partagé. Il y a des défis qui se vivent dans Saint-Roch. On a des grands défis sociaux devant nous. Mais aujourd'hui, quand on célèbre, on se rend compte aussi que c'est le fun, Saint-Roch.
Entre fermeture de magasins et itinérance, le quartier Saint-Roch a souvent mauvaise presse. Et pourtant, plusieurs l'adorent, comme Irina et Yvonne, qui viennent chaque année depuis 16 ans à la cabane à sucre.
C'est une habitude, hein? Depuis la compagnie Paquette, on n'a jamais laissé Saint-Roch.
On est heureuse ici. Oui. C'est du monde normal, c'est du monde chaleureux, c'est du monde respectueux.
Tout le monde, on doit vivre, hein? À leur manière, à leur façon. C'est à nous autres de s'adapter.
Tous par la main!
La tire d'érable attire les dents sucrées, comme Gisèle.
Mais je pense que je n'ai pas mangé, pas sûr, mais depuis le COVID.
Pour Gisèle, qui vit dans la rue, ce genre d'événement rassembleur fait du bien au moral.
Danser, puis l'animation, puis, au lieu que tout le monde se peine et de misère, aussi, puis ça change les idées, tu vois.
Malgré ce que l'on en dit, le quartier Saint-Roch est vibrant, selon Louis-Pierre, un père de famille venu profiter du soleil avec sa compagne et leur enfant.
Les gens n'aiment pas sortir de leur zone de confort, puis de venir côtoyer la défavorisation, c'est sortir de sa zone de confort pour beaucoup de gens. Mais c'est un quartier super intéressant, puis ça va peut-être permettre aux gens de s'ouvrir les yeux sur d'autres réalités, de venir fêter sur le parvis avec nous autres.
À côté des danseurs de gigue, Nancy fait place à de la poésie.
Ben c'est quoi qu'on a qui murmure dans notre cœur?
L'artiste invite les gens à inscrire un mot pour souligner le printemps.
C'est le début, là, encore. Il n'y a pas trop de messages, mais est-ce qu'il y en a un qui vous a plus interpellé?
J'aime bien... J'aime le monde qui sourit.
Alice Zanetta pour IJL à Québec.
Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@commercialfréquenceinfo.ca.
Depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, l'inquiétude va croissante chez les Haïtiens qui vivent aux États-Unis. La récente révocation du programme de libération conditionnelle humanitaire par le département de la sécurité intérieure met en péril le statut de plus de 530 000 personnes, dont près de 210 000 Haïtiens. Dès le 24 avril, ces individus perdront leur statut légal et risquent l'expulsion vers Haïti, contrôlé, comme on le sait, par des gangs et où règne une insécurité extrême. Arsinel Mésidor, consultant en immigration et membre de la communauté haïtienne au Manitoba, appelle à la solidarité et exhorte le Canada à se préparer à accueillir ceux qui y cherchent refuge. Le Manitoba, bien que moins touché jusqu'à présent, pourrait devenir une destination importante pour les Haïtiens francophones. Gaël Mpoyo à Winnipeg.
Il y a des Haïtiens qui vont être déportés.
Pour James Olivier, consultant international en gestion et résolution de conflits, il est difficile que les Haïtiens doivent retourner dans leur pays suite à une insécurité grandissante.
Et l'exode des Haïtiens, c'est pas que des gens qui ont des problèmes économiques, c'est des gens qui ont fui le pays à cause de l'insécurité. Il y a ce programme qui a été mis en place en janvier 2023 par le président Joe Biden. Et c'est le programme de libération conditionnelle, Humanitarian Parole, qui a permis à des Haïtiens, des Vénézuéliens, des Cubains de se rendre aux États-Unis sans visa et pour travailler. Et on parle de plus de 500 000. Et donc, qui ont été accueillis aux États-Unis. Et ce sont ces personnes-là aujourd'hui qui sont en difficulté. C'est une situation stressante non seulement par rapport à ce qui se passe en Haïti, mais aussi par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Parce que le risque est beaucoup plus élevé pour ces personnes. Ce n'est pas seulement les personnes qui sont arrivées aux États-Unis dans le cadre du programme de libération conditionnelle. Il y a d'autres Haïtiens qui sont aux États-Unis avec le statut TPS. Le TPS, les Temporary and Protected Status, c'est un statut de résident temporaire. Donc, qui a été accordé aux Haïtiens après le tremblement de terre de 2010? Parce que c'est un programme qui existe, ça fait des années, mais les Haïtiens n'avaient jamais bénéficié de ce programme. Donc, après le tremblement de terre, Obama a permis aux Haïtiens d'avoir ce statut.
Alors, mais le danger actuel, est-ce qu'ils vont rentrer en Haïti ou ils vont venir au Canada?
C'est la grande question aujourd'hui, parce que moi qui suis au Manitoba, et malgré mon statut de résident permanent, je me considère comme quelqu'un qui est en exil. Tous les Haïtiens qui sont aujourd'hui à l'étranger sont en exil, parce qu'il n'y a pas moyen de se rendre en Haïti. L'aéroport de Port-au-Prince, c'est le plus grand aéroport international du pays, est fermé. Donc, il n'y a plus de vols sur Haïti. Donc, c'est très compliqué pour quelqu'un qui est aux États-Unis de lui demander de retourner dans son pays. Mais il va où? Comment il va faire pour retourner dans son pays? Est-ce qu'il va utiliser la mer? Même sur la mer, les gangs pourchassent les gens.
Les demandes d'asile au Canada, notamment au Québec, sont en forte hausse. C'est le désespoir pur, affirme-t-il, appelant à une approche humaine de l'immigration. Winnipeg, Gaël Pouyou pour IJL.
On effectue une petite virée du côté de l'Alberta où nous attend Camille Dany pour nous parler du programme Impact lancé par le Comité Franco-Queer de l'Ouest. C'est un projet qui vise à former les jeunes LGBTQ+ francophones au rôle de gouvernance. Au cœur de ce programme se trouvent des formations mensuelles et du mentorat. Impact sera lancé en mai afin de renforcer la présence des jeunes LGBTQ+ dans les conseils d'administration des les organismes de l'Ouest canadien. L'initiative entend aussi préparer les organismes à accueillir ces nouveaux leaders et à promouvoir une gouvernance plus inclusive. Martin Bouchard, directeur général du comité, invite les jeunes adultes à s'y inscrire jusqu'au 9 mai prochain. Les détails avec Camille Dany à Plamondon, en Alberta.
Former les jeunes franco-queer au poste de gouvernance, c'est le nouvel objectif du comité franco-queer de l'Ouest. Le comité a lancé les inscriptions pour Impact, un projet innovant destiné à former et soutenir les jeunes leaders franco-queer désireux de s'impliquer dans la gouvernance des organismes de l'Ouest canadien. Martin Bouchard, directeur général du comité, explique avoir élaboré ce projet après avoir remarqué un faible taux de présence queer dans les conseils administratifs des organismes.
On en vient avec d'autres organisations francophones de l'Ouest, puis on a réalisé que sur les CA de ces organisations-là, il y a beaucoup, les enjeux queer ne sont pas beaucoup représentés, les perspectives queer ne sont pas beaucoup représentées par les gens sur lesquels siègent ces personnes-là. Donc, on s'est dit qu'on allait adresser ce problème-là en créant vraiment un programme pour que les franco-queer de tout l'Ouest puissent s'éduquer, s'instruire sur la gouvernance, puis ensuite aller joindre les CA, puis un peu changer les politiques de l'intérieur.
Le programme va au-delà de la simple formation, offrant un véritable tremplin pour les jeunes LGBTQ+, qui souhaitent influencer les décisions dans les conseils d'administration et faire entendre leur voix dans les espaces décisionnels francophones.
C'est plusieurs mois, les jeunes doivent s'inscrire, il y a vraiment un cursus à suivre. Et au terme de la formation, la personne reçoit une attestation là, qu'elle a suivi un programme en part entière et les personnes vont pouvoir le mettre sur leur CV, par exemple. T'sais. Donc, je pense que c'est vraiment de l'aide là, à l'employabilité aussi là, qu'on vise.
À partir de mai 2025, les participants sélectionnés suivront une série de formations mensuelles en gouvernance et bénéficieront d'un mentorat personnalisé pour tisser des liens avec des leaders établis.
Bien, nous, on s'associe avec une firme externe qui s'appelle Discutus. C'est une firme vraiment qui ne fait que ça de la gouvernance. Moi, j'avais suivi des webinaires avec eux. Comment améliorer un CA, comment améliorer la gouvernance dans un CA, comment... améliorer les relations entre une présidence et un directeur général, par exemple. Donc, tout ça, donc, eux, ils font ça. Donc, on les a approchés, puis on leur a demandé là, si ça les intéressait de se joindre à nous pour ce projet-là, puis de vraiment proposer toute une série d'ateliers pour les jeunes franco-queer. Ça commence de la base. Tu sais, qu'est-ce qu'un secrétaire dans un CA? Qu'est-ce qu'un trésorier, c'est le vice-président. C'est quoi les rôles de la présidence?
Le programme vise également à aider les organismes à préparer leur conseil d'administration à intégrer et valoriser ces nouveaux leaders, favorisant ainsi une gouvernance plus inclusive.
Et en parallèle de ça, on va aussi créer un guide, c'est un guide tangible, concret que les personnes pourront lire pour en apprendre un peu plus là, sur la gouvernance inclusive.
Pour M. Bouchard, il est primordial que la communauté queer soit davantage entendue, spécialement dans des postes de gouvernance.
C'est une subvention du ministère Femmes et égalité des genres qui a été abolie malheureusement avec le remaniement ministériel du premier ministre Carney. Donc, je peux dire qu'on a un peu quand même d'inquiétude par rapport à ça. Parce que les enjeux de densité de genre et sexuelle sont un peu éliminés là, de la carte du cabinet.
Les jeunes leaders intéressés peuvent s'inscrire jusqu'au 9 mai prochain. Camille Dany, Boreal FM pour l'IGL.
Retour au Québec maintenant où 7 personnes se sont inscrites au défi Jaune se paye ta tête de Fermont dans le nord du Québec. Le défi Jaune se paye ta tête est un classique fermontois qui fête ses 7 ans en 2025. Il s'agit d'un défi du type tête rasée locale, une collecte de fonds au profit de l'organisme Cancer Fermont. Ce printemps, 7 personnes donc se feront raser les cheveux ou la barbe pour l'occasion. Des hommes, des femmes, des enfants aussi et même un retraité âgé de 80 ans, connu comme le Père Noël de Fermont, Élisabeth Séguin à Fermont, Québec.
Ils seront 7 à relever l'annuel défi Jones se paye ta tête le 2 mai prochain à Fermont. Suzanne Laniel, Vanessa Guédon, Jean Grenier, Yann Landry, Michel Lécuyer, bientôt 80 ans, Édouard Jeanneret, 12 ans, et Sloan Pelletier, 10 ans, ont entamé leur campagne de financement en vue de cette soirée qui leur permettra de renflouer les coffres de l'organisme Cancer Fermont. Les candidats sont nombreux au grand bonheur du principal organisateur, Kevin Morissette, qui estime que la communauté fermontoise a besoin de cette participation pour soutenir la mission de l'organisation locale.
Ça va au-delà de mes espérances. Tu sais, j'ai toujours le fameux stress qu'il y a personne qui va s'inscrire, qui va participer. Ça me fait chaud au cœur parce que, tu sais, la population fermontoise a le cœur sur la main et puis ils sont super généreux. Puis surtout que la demande est là, là. Regarde, juste en un an, là, on a passé de 2023 de 130, mais l'année passée, en 2024, à 180 000 remis aux malades de Fermont.
Parmi les candidats, Vanessa Guédon relève le défi pour une deuxième fois. Cette dernière le fait notamment à la mémoire de son père, mais aussi pour son ami qui a bénéficié des services de Cancer Fermont dans la dernière année.
Tout simplement mon ami Cathy, qui a dû se battre. Et c'est une warrior, elle s'en est sortie, ça c'est fantastique. Mais j'ai revécu tout ça, j'ai revécu mon père, que malheureusement j'ai perdu. Et je trouve que ce que fait Denis, ce que font tous les bénévoles pour Cancer Fermont, là, c'est waouh. Moi, j'aurais voulu avoir un Denis Grenier qui m'aide à comprendre puis à faire les étapes par rapport à mon père. Et ben là, de voir qu'il continue à faire ça, puis qu'il a pris en main mon ami, puis que grâce à... Ben, ça a fait partie des choses qu'elle s'en est sortie, puis elle est en super forme, puis c'est elle qui me booste à gagner encore plus d'argent pour ma cagnotte. Fait que c'est pour ça que j'ai dit non, cette année, je le refais encore.
Madame Guédon se souvient aussi de sa première participation qui a été très émotive lorsqu'elle s'est fait raser les cheveux en 2020.
La première, ça a été vraiment très, très dur parce que c'est ça, j'avais vraiment une très belle chevelure. Je l'avais aux fesses, ouais. Elle était... Mais quand elle a commencé à couper la première couette, là, j'ai toutes les émotions qui ont sorti. Mon père, puis toutes sortes de choses, ça a été... Je vous dirais que ça n'a pas été facile. Pour être honnête, là, ça a vraiment été très dur. Puis quand elle a mis le clipper, ouf, là, ouais. J'ai eu des frissons partout, puis j'ai eu les larmes aux yeux, puis je dis mon Dieu, qu'est-ce que je fais. Mais c'est sûr qu'on était en comité restreint parce que c'était le Covid. Mais les gens qui étaient là, ils m'ont tous dit waouh, t'es magnifique, ouais. T'as un beau coco, t'es belle, t'es. Ouais. Puis j'ai eu beaucoup beaucoup de compliments par rapport à ça, fait que ça m'a donné du power. Puis, ben, cette année, j'ai décidé de le refaire au grand désarroi de mon chéri d'amour. Mais je le sais que cette année, ça va être différent parce que je l'ai déjà fait. Puis c'est ça, c'est pour mon ami, c'est pour tous les malades, fait que go.
Dans les prochaines semaines, CFMF rencontrera les participants du défi Jones se paye ta tête pour présenter aux auditeurs leur motivation ainsi que leurs objectifs. En 2024, le défi a permis d'amasser plus de 13 000 $ pour Cancer Fermont. Les sommes servent à apporter du soutien financier et un accompagnement aux personnes atteintes d'un cancer dans la communauté ainsi qu'à leur famille. Élisabeth Séguin, pour IGL, à Fermont.
Eh bien voilà, c'est tout pour nous. Merci à nos journalistes Alice Zanetta, Élisabeth Séguin, Annette Minka, Pierre Gill et Camille Dany. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire et l'initiative de journalisme local. Julia Chénu, rédactrice nationale. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation qui vous dit merci d'être là et à la semaine prochaine. Ciao!
commentaires ou suggestions, écrivez-nous radio@frequenceinfo.ca, radio@frequenceinfo.ca.